50% Next Gen, 50% Rétro, 100% Jeux Vidéo. C'est Génération Press Start sur M57 Radio.
M57 Radio,
en partenariat avec culturegames.com. Génération Press Start. Try again.
Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Try Again. Ce soir, je suis toujours accompagné de mes chers compatriotes. Alors, je vais vous les présenter une fois de plus. Honneur aux dames.
Compatriote du jeu vidéo, c'est ça?
Tout à fait. Bonjour Nelly.
Toujours fidèle au poste. Bonsoir tout le monde.
En face de moi, nous avons Ellie. Bonsoir Ellie.
Bonsoir tout le monde.
Et enfin, le dernier larron, Lionel.
Salut la compagnie.
Toujours présent, magnifique. Alors, au programme de ce soir, un programme très chargé. Et oui, j'en ai fait beaucoup des traits, mais il le mérite. Parce que ce soir, Nelly nous parle de Tomb Raider 2.
Ouais. Un jeu où le héros est une femme.
Ouais.
Girl Power.
Enfin.
Girl Power. On se croirait revenu aux années Spice Girl. C'est totalement génial. Donc, pour commencer, on va s'écouter une petite musique. Alors, les musiques de ce soir, elles ont été essentiellement composées par Nathan McQuay, qui est le compositeur de Raider. Mais parfois, il n'y aura pas que lui. Donc, voilà, je précifierai à chaque fois. Et donc là, c'est le thème d'intro du jeu, si je ne m'abuse, Nelly.
Oui. D'accord. C'est ça. Tomb Raider 2.
Ben, on s'écoute ça et puis à tout à l'heure, quoi.
M57 Radio. Try again.
Et vous êtes toujours dans Try Again. Je ne vais pas tarder à laisser la parole à l'ami Lionel. Avant ça, j'aimerais vous rappeler que nous avons un gentil forum, spécialement pour notre émission. Donc c'est tout en attaché www.forumtryagain.com. Donc là-bas, vous pouvez nous retrouver. Et nouveauté de la semaine, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le podcast, il arrive, il sera là.
Ouais, cool.
Voilà, donc pour plus d'informations, venez sur le forum et puis vous verrez comment ça fonctionne.
Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de Lara Croft, parce que forcément, c'est l'héroïne du jeu dont on parle ce soir, Tomb Raider. Et il faut savoir une chose déjà, c'est qu'à la base, le jeu vidéo, c'est quand même un univers assez masculin. Et comme la plupart des héros de jeux vidéo, à la base, Lara Croft était censée être un homme.
Donc elle, on est sur le billard.
Il y a des opérations pour ça. Ouais.
Donc à la base, on avait droit à un aventurier style Indiana Jones avec son lasso et son chapeau. Enfin bon, voilà. Bon, ils se sont dit, ça va peut-être pas faire super original, ça va un peu faire repompe, on va peut-être prendre une attaque aussi, parce qu'on n'est pas trop, voilà, on va un peu sur le terrain de Lucas, donc ils se sont dit, bon, et puis tant qu'à faire, quitte à voir un personnage évoluer de dos, autant avoir une belle vue, donc pourquoi pas mettre une nénette, donc bah, ils ont mis une fille en tant que personnage principal du jeu. Donc on s'est retrouvé avec Lara Croft. Alors, bon. Pour le nom, ils ont fait simple, hein, ils ont pris l'annuaire, quoi. Bon, pourquoi pas, quoi.
Oui, mais, oui, mais attends, à la base, c'était pas Lara Croft, en plus.
À la base,
c'était quoi, hein?
C'était un truc mexicain.
Laura Cruz, parce qu'à la base, elle était originaire d'Amérique du Sud, et puis finalement, ils se sont dit, on va mettre une English, voilà. Donc, ils ont mis une rose beef dans le rôle.
Ouais. C'est à la mode à cette époque, la noblesse anglaise était un petit peu hype aux États-Unis, donc ils se sont dit, non, mexicaine, je sais pas quoi, là, ça va pas, on va la faire un petit peu noble.
Heureusement qu'ils n'ont pas appelé Dirty Sanchez.
Effectivement. Donc, voilà, donc, pour le look, bon, bah, ils ont essayé. Ils ont tâtonné avant d'arriver à cette version qu'on connaît tous, hein, de Lara Croft. Et il fallait quand même qu'elle ait un look un peu aventurière. Donc ils lui ont mis un petit t-shirt bleu turquoise sans manches. Bon, en gros, des Rangers quand même pour que ce soit pratique quand elle évolue dans la jungle. Mais faut quand même préciser que bon, moi perso, dans cette tenue là j'imagine quelqu'un aller se balader dans la jungle, je pense pas qu'il leur sortirait indemne, mais bon, voilà.
Oui, mais c'est près du corps, donc tu peux pas t'attacher aux branches, à la roche, tu vois, c'est près du corps pour pouvoir mieux avancer
va évoluer dans les ronces et dans les trucs comme ça avec un petit short qui couvre rien, mais bon, après tout, fallait que ce soit agréable à l'œil. Bon, on peut pas dire que c'est loupé, dans le cas échéant ils se sont quand même pas trop ratés, donc voilà, donc
moi je tiens à préciser qu'elle doit quand même avoir froid de temps en temps, parce que être dans la neige, elle n'a pas toujours le pantalon.
Elle n'est pas en short, hein. Elle n'est pas en short dans la neige, attends.
Ça dépend, ça arrive.
Après, il y a des tenues après différentes quand même.
Ouais, ils ont quand même fait évoluer un peu le look au fur et à mesure des épisodes. Ils se sont dit, ouais, la pauvre, elle doit avoir froid. Et donc,
Je suis sûr, elle était réchauffée de l'intérieur.
C'est cela, oui.
Donc, il faut savoir qu'à partir de l'opus 2. Ça a un peu fait débat à l'époque, hein. On va dire qu'elle a eu, quand Martin parlait de passer sur le billard, elle a eu une légère augmentation mammaire, on va dire.
Ah bon.
On va dire que elle a gagné quelques tailles de bonnet. Donc, alors selon l'anecdote, hein, ça reste une anecdote, hein, c'est des rondis et des choses qui circulent un peu à droite à gauche.
C'est la puberté, c'est ça.
C'est la puberté. Non, donc en gros, c'est le développeur qui aurait soi-disant fait riper la souris et augmenter le curseur qui ont donné à Lara ces formes généreuses, hein.
Une légende du jeu vidéo.
Voilà, ce qui est bien, c'est en plus la suite de la légende, c'est-à-dire que ça a quand même fait débat, du coup, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas. Mais comme évidemment, à mon avis, dans les trucs de jeux vidéo, il doit y avoir que des mecs, à mon avis, le débat, il a pas dû faire long feu, quoi, pour garder les boobs.
C'est clair, ils ont vite adopté la nouvelle poitrine, et ce sera qu'en 2006 que Lara aura une petite réduction, du coup elle repassera une nouvelle fois sur le billard et on lui en enlèvera de nouveau un petit peu, parce qu'ils se sont dit quand même il y a un peu plus dans le jeu que juste une paire de seins. Et
dit comme ça, j'ai l'impression que tu parles de Pamela Anderson, c'est horrible.
C'est vrai, hein.
Mais ouais, je pense que le débat a été plus ou moins le même, quoi. C'était une question d'image et ils se sont dit, bon, le jeu, il a quand même il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que Lara Croft dans le jeu. C'est un bon jeu d'aventure. On peut peut-être mettre en avant autre chose que des formes féminines, quoi, pour vendre le jeu. Donc, ils ont fait ça comme ça. Ils ont décidé de procéder à une petite réduction à ce niveau-là. Donc, faut savoir quand même que Lara Croft est devenue une icône, quoi, du jeu vidéo. Je veux dire, tout le monde connaît Lara Croft. Il suffit d'aller faire un peu de cosplay dans les conventions diverses et variées. Vous avez 15 gamines de 15 ans qui se mettent en cosplay.
C'est pas le cosplay le plus compliqué à faire, non.
Oui, en plus. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a vraiment une image dans les yeux des filles de ce personnage.
Identification.
On aimerait bien, tu vois, être comme elles. Donc, je pense pas que ce soit juste le simple fait de la. Ouais. Je pense que c'est pas juste le simple fait de la facilité du costume. Je pense que ça fascine quand même comme personnage.
Il voilà. Faut savoir aussi qu'elle a été incarnée par plus d'une dizaine de femmes et donc que.
Grands noms, vas-y, des grands noms.
Des grands
noms. Vanessa Demouy.
Elle aurait dû, elle ne l'a pas fait, elle aurait dû.
Elle n'a pas été officiellement.
Ah, elle n'est pas officielle, mais elle peut quand même être comptée quand même.
Ça, c'est pour les gens comme nous qui connaissent Vanessa Demouy, parce que les jeunes qui nous écoutent savent pas qui c'est.
Je pense, ouais. Donc elle a été quand même incarnée par plus d'une dizaine de femmes et ces femmes qui avaient été choisies pour incarner vraiment Lara Croft ont quand même reçu un entraînement spécial et tout pour avoir non seulement le look, l'aspect, mais en même temps quand même les capacités plus ou moins de Lara Croft quoi.
Donc, ça claque.
Quand même. Ouais, ça claque, hein.
Si elles ont les mêmes capacités que l'héroïne du jeu vidéo, elles doivent être sacrément sportives quand même. Parce qu'il y a des exploits. Oui.
Non mais tu peux faire des photos, il y en a qui savent faire le grand écart. Enfin tu vois qu'elles sont gymnastes.
Elles se traquent avec les mains.
Ils n'ont pas choisi non plus. Voilà. Peut-être au début, mais en tout cas après les officiels par la suite, elles ont été choisies au hasard quoi.
Ouais, sans compter qu'en plus il y a quand même eu des films Tomb Raider.
Deux.
Ouais mais alors Angelina Jolie,
elle est bien.
Pas pour Tomb Raider, elle est belle.
Si.
Elle est très belle. Il y a des officiels de Tomb Raider qui lui ressemblent beaucoup plus et qui auraient mieux représenté, je trouve.
Bon, bah écoute, ouais. Moi je pense qu'on va continuer le débat off-air. En attendant, vu comme Lina nous a si bien introduit le thème, on va écouter le thème de Lara Croft avant que tu nous expliques pourquoi tu aimes tant Lara.
Voilà.
Simplement quoi.
Voilà.
Ok ? Bah, ouais. On s'écoute ça.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Voici déjà de retour après cette très 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 courte musique. Le temps pour moi de vous rappeler que nous sommes en partenariat avec culturegames.com. Je vais quand même arriver à le dire, on va leur faire un tout petit coucou. Et puis je vais laisser la parole à Nelly pour simplement qu'elle nous explique pourquoi tu aimes tant Lara.
Ouais.
Alors, Lara, ton idole.
On va pas se faire que Lara, mais donc aujourd'hui moi j'ai décidé de vous parler de Tomb Raider 2, la dague de Xian. Et pour une fois, je vais commencer un petit peu à l'envers. Je vais pas commencer par vous parler de l'histoire, etc. Je vais plutôt commencer par vous parler de mon choix, pourquoi le 2 plutôt que le 1, et de tous les apports de ce jeu. Pour rappel tout de même, dans le Tomb Raider premier du nom, on découvre donc Lara, qui est une archéologue hors pair, et qui se fait contacter par Jacqueline Natla, qui est présidente de la Natla Technologies, et qui lui propose de partir à la recherche d'un objet antique qui est le Sion. Alors ce premier jeu, je veux pas non plus l'oublier complètement parce que il a bien évidemment posé certains jalons inévitables et qui vont rester dans la série des Tomb Raider. Donc par exemple, on va dans tous les Tomb Raider partir à la recherche souvent de vestiges, et très vite durant les scénarios et durant les épisodes, on va se rendre compte que ces vestiges ne sont pas n'importe lesquels, ils sont très souvent magiques. Et du coup, ils vont être dangereux s'ils sont laissés dans les mains de n'importe qui. Et dans le 1, donc, c'était donc le Sion. Et chez nous, donc dans le 2, dans celui que je vais vous parler aujourd'hui, ce sera la dague de Xian. Donc très vite, on se rend compte que Lara n'est pas n'importe qui. Elle est archéologue, elle complète sa collection, elle part à la recherche d'objets pour compléter sa collection. Mais en complétant sa collection, elle est quand même sauveuse de l'humanité. Donc ça, c'est quand même fort, quand même.
C'est très fort.
Voilà. Deuxième chose qui se pose très vite dans le 1, c'est l'espèce de petite quête annexe, puisque en plus des vestiges, elle va partir, on va pouvoir rechercher des petits secrets qui, dans le Tomb Raider 2, sont des espèces de petits dragons dans diverses matières. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a le jade, etc. Un autre, pour l'exemple, pour finir dans les exemples des jalons posés dans le premier, ce sont les parcours d'entraînement, la visite du manoir que l'on a dans les Tomb Raider, dont j'essaierai de parler un peu plus tard si j'ai le temps, on verra. Alors pourquoi j'ai préféré parler du 2 plutôt que le 1, puisque c'est le 1 qui pose les jalons. Alors premièrement, on va tout de suite faire la Ellie's Touch, on va tout de suite parler de l'anecdote personnelle.
C'est parti.
Premièrement,
très bonne idée.
Voilà.
Il nous manque un jingle pour cette rubrique.
C'est clair. Donc parce que c'est celui que je jouais avec mon frère, et j'ai joué particulièrement sur PC. Et on se partageait, il est resté gravé dans ma mémoire et dans mon cœur, parce qu'on jouait à deux sur le même clavier. Donc on se partageait les boutons, quoi. Donc et on arrivait à pas s'engueuler, je sais pas comment on faisait. Et puis pour revenir plus sérieusement, évidemment, je préfère parler du 2 parce que il va évidemment y avoir des progrès tout de suite dans le 2, que ce soit au point de vue graphique, même si le premier était très beau pour l'époque, et quand je l'ai repris et que je l'ai regardé, j'étais même étonnée. Parce que dans ma mémoire, il était peut-être un peu moche que ça, mais en fait, non, il est très beau. Et puis, les progrès dans les mouvements, surtout, et les possibilités que nous ont apporté le 2. Alors, évidemment, les progrès graphiques, Lionel en a déjà un peu parlé, évidemment, ils se voient tout de suite sur le corps de Lara. Elle est beaucoup plus belle, mieux formée, enfin, c'est une belle femme.
Ça, c'est du progrès.
Dans le 1, elle était déjà jolie, mais dans le 2, elle devient vraiment agréable à regarder. D'ailleurs, on voit apparaître Sanat, pour la petite anecdote. Dans le 1, elle avait un chignon. Dans le 2, le progrès technique permet de lui faire une natte qui se balance quand elle avance. Donc, apparition de la natte.
J'ai une question pour toi par rapport à la natte. Toi qui as une fille qui a des cheveux longs, est-ce que tu préférais avoir un chignon ou des nattes pour faire ce qu'elle fait ?
Oh, je sais pas. Une natte, je sais pas. Il y a pas trop d'intérêt à voir l'un ou l'autre. Hein.
Ah, je
c'est
sais
plus
pas,
que ça. À mon avis, la natte est un peu plus jolie à regarder, quoi.
Ouais, mais la natte, t'as pas le taper dans la gueule après. Enfin,
c'est vrai,
là n'est pas le débat.
Et tu peux attaquer les ennemis avec
la natte.
Secrète,
ouais,
en fait.
Ah, ouais.
C'est ce qu'ils ont fait pour
Décaler
son
cœur
avec Tiny. Hein. Tiny tape avec ses cheveux.
C'est pas dans Bayonetta que l'héroïne,
elle a les cheveux qui recouvrent l'intégralité de son corps. Et quand elle s'en sert pour attaquer, il découvre une partie de son corps, forcément, puisque.
Ah, c'est bien senti aussi.
C'est pas mal fait.
Alors, évidemment, les progrès graphiques, c'est pas que sur Lara qu'on les voit. Il va y avoir quand même si le jeu n'est pas encore parfait, il va y avoir quand même une belle correction de certains bugs d'affichage. Dans le 1, très souvent, quand on avait des changements de caméra, les ennemis, on avait l'impression qu'ils étaient coincés dans un mur.
Oui, des fois, on se coinçait nous-mêmes dans un mur.
Voilà, on se coinçait dans un mur, il y avait des angles qui étaient un peu spéciaux. Je dis pas que dans le 2, tout est résolu, mais disons que ça devient vraiment plus agréable. On commence à avoir, on peut nous-mêmes gérer l'angle de caméra, et quand on le gère, il y a moins de bugs quand même.
Ouais, disons que le gameplay de la série a quand même fait longtemps débat, parce qu'il a souvent été jugé un peu rigide par les amateurs de jeux vidéo.
Oui.
Parce que c'est vrai que déplacer Lara Croft et lui faire, enfin, c'est quand même un jeu où il y a beaucoup de phases plateformes très importantes où on peut mourir d'un simple mauvais geste, et c'est vrai que c'est frustrant, quoi, de se retrouver
Dans le 1, pour l'anecdote, en fonction de la taille des gouffres, on pouvait pas les sauter. Pas de commentaires, d'accord.
Non,
donc on pouvait pas les sauter tous de la même manière. Des fois, il fallait plus ou moins être proche du bord de la première plateforme pour y arriver. Enfin, c'était un calcul, et c'était vraiment embêtant. Quoi.
Ouais, fallait faire un petit pas en arrière, deux pas en avant.
Avancer jusqu'au bord, puis un pas en arrière.
Ouais, courir. Enfin, c'était vraiment.
Ça rappelle la chanson de l'homme. Ouais, c'est un pas en avant, deux pas en arrière.
Voilà, exactement.
C'était ça.
Ouais. Dans le 2, c'est aussi pas mal le cas. Moi, j'ai aussi ma petite anecdote personnelle que j'aimerais raconter. Alors, je jouais donc à Tomb Raider 2, c'est celui que je connais le mieux, et je butais souvent contre les murs. Bon, je me disais, bon, je suis pas très doué, tout ça. Et il y avait une cinématique in-game, et la personne de Lara Croft, elle se cognait également dans les murs pendant la cinématique, c'est-à-dire que
non,
les programmeurs...
Non, mais ça, il y a que toi qui l'as fumé, ça, c'est pas possible.
Non, c'est véridique.
Moi, ça me l'est jamais fait, hein. J'ai jamais revu
véridique.
Ça. Hein.
Ok, débat activé, on continuera.
Jouer sur
le
PC,
forum,
hein, c'est peut-être un truc spécial PlayStation, j'en sais rien.
Oui, jouer sur PlayStation, effectivement.
On continuera ce débat sur le forum, on va le faire ici. Hein.
Évidemment, elle va aussi avoir donc une évolution au point de vue des possibilités de ce qu'on peut lui faire faire. Donc elle va par exemple pouvoir, elle se saute toujours, fait des bonds, mais cette fois-ci elle peut faire un bond en se retournant en l'air, donc latéralement, en arrière, en avant. Elle peut faire, alors dans le 1 elle nageait déjà, mais cette fois-ci elle peut faire des roulades en nageant. Elle peut faire le saut de l'ange pour sauter au sol ou pour sauter dans de l'eau. Alors ça c'est déjà un beau progrès. Alors vous allez me dire c'est peut-être un petit peu gadget. Oui, mais dans l'opus 2, il y a quand même un mouvement qui est deux mouvements même qui sont rajoutés, qui sont très utiles. Elle va pour la première fois grimper sur des roches, sur des échelles, sur des rebords de falaises, et elle va pour la première fois utiliser la tyrolienne et utiliser aussi des véhicules. Donc du coup, on va avoir des phases de jeu différentes, on va avoir des plans de jeu différents puisque les chemins qu'elle va pouvoir prendre, ils sont plus sur un seul plan, on peut grimper, descendre, se laisser tomber dans de l'eau. On n'a plus peur de faire ce genre de choses. Et évidemment, du coup, les parcours vont se voir énormément enrichis. Donc, à la qualité, ça plus la qualité graphique qui s'améliore, on va obtenir pas moins de 18 niveaux qui vont être vraiment quand même d'une belle qualité graphique et qui vont être assez grands, assez vastes, qui vont venir enrichir ce jeu. Pour une idée, un niveau, ça peut mettre, donc 18 niveaux, un niveau, on peut mettre plus ou moins une ou deux heures pour le réaliser. Donc au niveau de la durée de vie, ça devient vraiment sympathique. Ça dépend aussi de si on veut faire le jeu à 100%, si on est plus ou moins bon joueur. Mais voilà, ça enrichit vraiment au point de vue richesse du jeu, découverte des mondes et temps de jeu, ça l'enrichit énormément.
J'ai une question pour toi à ce sujet alors. Donc tu dis que tu vas avoir environ une à deux heures par niveau quand ouais. tu les découvres. Et une fois que tu les connais, si maintenant par exemple ton but c'est de les finir le plus vite possible, oui. sachant que tu as passé l'aspect découverte, est-ce qu'il y a un vrai replay value? Est-ce qu'il y a un intérêt à les refaire et à les chercher à les faire le plus vite possible?
Alors moi je trouve pas d'intérêt à refaire un jeu très vite. Mais ça a été fait. On peut voir des vidéos sur le net où effectivement les mecs évitent tous les ennemis, connaissent les parcours par cœur, savent ce qu'il faut faire et vont et se sont pris a priori du plaisir à le faire très vite. D'accord. Moi je trouve pas qu'il y a vraiment d'intérêt parce que on est quand même dans une archéologue qui fait de l'exploration. Donc on a envie de voir le monde, de profiter des mondes. Et justement du fait de cette qualité graphique, quand on arrive à Venise et que tout est bien détaillé, que c'est beau, je veux dire, j'ai pas envie de tracer moi personnellement.
Non mais libre à toi, c'est pour ça que je te pose la question.
Mais c'est possible.
S'il y a un intérêt à refaire les niveaux quand on les connaît déjà et qu'on a passé cet aspect découverte qui visiblement est
Personnellement je dirais non, mais il y en a qui le font. Donc d'accord. Je suppose qu'ils trouvent un intérêt.
Ok. Bon ben écoute Nelly, je vais te rendre la parole d'ici quelques instants.
Très bien.
En attendant, on va s'écouter une toute petite musique, toujours composée par Nathan McCree. Et ce coup-ci, c'est drums. Drums, c'est les tambours.
Ouais, les tambours.
N57 Radio.
Try again.
Et nous voilà déjà de retour dans Try Again. Le temps pour moi de vous annoncer que ce soir il y aura des CG codes à gagner, chose que j'avais pas encore dit jusqu'à présent. Donc voilà.
Ouais, des CG codes.
Et puis puisqu'elle est contente, lui rend la parole. Dis, c'est à toi, vas-y.
Bon, j'étais en train de parler justement des améliorations. Donc tout ça fait effectivement du coup que le jeu commence à devenir un petit peu plus complexe, que ce soit dans la prise en main ou dans le parcours qu'on va faire. Et à tout ça se rajoute encore une petite difficulté en plus, c'est qu'un des tableaux bout du Tomb Raider 2, 1, pardon, tombe, Lara Croft va tirer sur des ennemis humains.
Non.
Eh oui. Alors officiellement, elle ne les tue pas. Je ne sais pas ce qu'on fait, on les blesse a priori.
Elle les endort, elle a peut-être voilà. des effets endormissants.
Voilà, c'est un rondoudou en fait.
Elle est quand même un peu pacifiste. Donc,
ils s'évanouissent.
Mais bon, elle les tue pas, mais quand même, sa panoplie de, d'armes est enrichie, puisqu'elle avait ses deux petits usis et son fusil à pompe à la base. Là, il y a, je crois, un M16. Ça existe,
oui, M16, c'est ça. Ouais.
M16, un lance-grenade, un harpon pour pouvoir, évidemment, ce coup-ci, se battre aussi dans l'eau. Elle utilise une torche.
Ouais, les deux pistolets mitrailleurs aussi.
Ouais, ouais. Les usis.
Les doubles usis.
Ouais, ouais, ouais.
Les doubles usis, ouais. Je l'ai pas dit.
Si.
Si, je crois bien.
T'as dit c'est l'arme de base, mais en fait donc, c'était pistolet. Mais.
Ouais, donc ah oui oui d'accord. Ouais.
Ouais, ouais.
Et alors du coup enrichissement. Alors enrichissement parce que évidemment on va tuer des humains plus des animaux, donc ils vont rajouter, ils ont rajouté volontairement beaucoup plus d'ennemis à tuer. Donc alors il y en a qui ont critiqué un peu ça, il y en a qui adorent, moi j'adore parce que du coup il va y avoir un petit peu moins de phase d'exploration. Du coup, et un petit peu plus de phases un petit peu style Doom-like où on va avoir plein d'ennemis qui vont nous arriver et où il faut tirer, 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 tirer.
De l'action.
Voilà. Alors, il y en a qui ont regretté ça. Il y en a qui ont aimé. Moi, j'ai aimé. Et ça a continué dans les autres opus. Et moi, j'en suis très contente parce que ça a enrichi le jeu. L'apport du lance-harpon, c'est pareil. Ça permet de combattre sous l'eau des plongeurs, des requins. Donc, ça apporte un petit quelque chose.
J'ai une question.
Ouais.
Est-ce que le fait de battre des requins, c'est comme dans la scène d'introduction du deuxième film?
Non, absolument pas. On ne les combat pas à coups de poing, c'est pas possible.
Dommage, c'est
si on a
drôle.
Plus d'armes, il vaut mieux se tailler. Il n'y a pas moyen de faire
ils
ça.
Ils n'ont pas repris. Enfin, dans le film, ils n'ont pas repris une scène du jeu. Quoi.
Non, non, non. Bah, on en parlera, je pense, dans la dernière rubrique.
Okay.
Mais c'est vrai que même ne serait-ce que la torche, je veux dire, l'apport d'avoir ces torches fait qu'il va y avoir des passages plus ou moins sombres, plus ou moins dans le noir, où on va devoir se débrouiller pour avancer dans des passages, et rien que ça, ça enrichit. Donc, même la plus petite chose, j'ai trouvé ça...
Torche en nombre limité, quand même.
En nombre limité, mais, alors, qualité graphique améliorée, quand on tire avec les pistolets, les balles, alors, je connais pas la physique des balles, des pistolets, mais je sais pas si elles éclatent contre les murs ou je ne sais quoi, mais elles font des étincelles qui font qu'on peut aussi, ça éclaire l'environnement, et on peut aussi s'en aider pour avancer dans les phases de nuit si on n'a pas de torche.
Donc du genre tu vois rien dans une grotte, tu vas tirer dans tous les sens comme ça tu vois un
voilà,
peu quelque chose.
Voilà. Tu tires dans tous les sens, t'essaies de trouver une échelle pour essayer de monter si faut monter. Et une fois qu'elle va monter, tu verras plus rien. Mais comme elle monte, t'as lancé l'action, elle monte, y a pas de souci.
C'est pas très économique quand même comme façon de s'éclairer.
Par rapport...
Oui, mais t'es limité avec tes armes de base, donc tu t'en fous.
Mais surtout que comme archéologue là, dans des endroits qui sont un peu fragiles, elle va un petit peu abîmé.
Oui,
ça,
voilà, voilà le côté archéologie. Là.
Et par rapport au côté, ben il y a des ennemis, un côté un peu action, elle se fait repérer si elle fait ça. Mettons dans les dents noires, mais il y a 10 000 ennemis autour et non. Elle tire à droite à gauche, ils captent quelque chose.
Dans le 2, les ennemis, ils arrivent de toute façon, quand tu arrives à la phase que tu as dépassé un stade, ils arrivent automatiquement.
D'accord,
si tu
franchis un point, ils arrivent, c'est pas genre voilà. Tu fais du bruit, bien sûr.
Non, pas plus en tout cas. Ils vont de toute façon venir sur toi, ils sont programmés pour ça, donc que tu tires ou que tu tires pas, ils sont là et ils vont faire ce qu'ils ont à faire.
Ils sont attirés que tu tires ou pas, tout de suite.
Voilà, exactement. Alors je vais revenir un petit peu quand même sur le scénario. Donc dans notre opus 2, on va donc voir notre chère Lara qui s'intéresse à une vieille légende chinoise qui parle d'une dague. Et cette dague a forcément donc des pouvoirs. La légende dit que cette dague, celui qui aura cette dague obtiendra le pouvoir du dragon s'il a le courage de plonger cette dague dans son cœur. Et la légende ajoute que le terrible empereur Xian, donc d'où le sous-nom de ce jeu, avait donc utilisé cette dague et obtenu le pouvoir afin d'asservir les différentes contrées chinoises. Et ce sont les moines guerriers tibétains qui l'ont stoppé en lui arrachant cette dague du cœur quand il était devenu dragon. Donc c'est eux, a priori, qui auraient cette dague et qui l'auraient cachée dans un tombeau situé dans les murs de la Grande Muraille de Chine. Donc notre jeu démarre évidemment au-dessus de la muraille. On est lâché en hélicoptère. Très belle, d'ailleurs, cinématique de base. Et ni une ni deux, Lara donc part sur les pistes de ce tombeau pour chercher cette dague qu'elle ne sait pas être magique, hein, puisque à la base c'est une légende qui dit qu'elle est magique, mais à la base on ne le sait pas.
Elle veut vérifier la légende.
Voilà.
D'habitude toutes les légendes sont vraies.
Ouais, en tout cas, ouais, dans Tomb Raider, en général, la légende s'avère être vraie. Et donc, grâce à ses talents d'archéologue, elle a trouvé tout de suite l'entrée du sanctuaire. Hein, cette phase, on nous l'a fait pas jouer. Sauf que, évidemment, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Elle arrive devant le sanctuaire, la porte est scellée et elle est gardée par une espèce de mafioso italien. Et en le menaçant un petit peu méchamment avec ses pistolets, elle apprend qu'un certain Marco Bartoli a l'air de savoir beaucoup de choses sur ce tombeau. Donc elle veut un petit peu et qui veut a priori un petit peu s'accaparer les pouvoirs de la dague, a priori pas d'une manière sympa quoi. Donc elle se dit que là non seulement elle a peut-être intérêt à trouver la dague pour sa collection, mais que elle a peut-être aussi intérêt à stopper ce Marco. Et donc, grâce à des petites recherches, elle en apprend un petit peu plus sur ce Marco et on débarque à Venise. Donc là, c'est aussi une nouveauté de ce Tomb Raider, puisque avant, on était essentiellement dans des lieux archéologiques, dans des espèces de lieux de vestiges un peu cachés. Là, on va débarquer dans la ville de Venise.
Oui, c'est sympa, ça change.
Pour la première fois, la ville va être modélisée, d'ailleurs plutôt bien. Le seul petit bémol que j'aurais à émettre, c'est qu'elle est quand même dans une grande ville, Venise, où il y a beaucoup de touristes, et les seuls gens qu'on croise, c'est les mafiosos qu'on doit tuer. La ville, elle est déserte. Donc bon, là, il y a en quantité fort à faire.
Tu te fais agresser par les rats, quand même.
Ouais, voilà. Donc, de Venise, elle va découvrir plein de choses. On va passer par le théâtre de Venise, l'opéra de Venise. Elle va découvrir la planque de ce Marco, et elle va se rendre compte qu'il s'est déjà beaucoup, il a beaucoup d'avance sur elle, donc il va falloir qu'elle parte à sa recherche pour le stopper. Et donc on va faire une phase sur une plateforme pétrolière avant de revenir au Tibet, avant de revenir véritablement dans les fins fonds des vestiges archéologiques.
Donc elle fait vraiment le tour du monde pour aller en Alaska et revenir.
Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis pour finir, comme je vois qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps.
Si, il reste plein de temps, vas-y. D'accord. Alors là, c'est tout pour toi.
Très bien. Alors,
fais-toi plaisir.
On est qu'au premier badin. Je continue. Alors, il y a
avec pas de plaisir,
c'est parti, vas-y. Moi, je t'arrête pas, hein, tant que t'es lancé comme ça.
Voilà. Donc, on a vraiment l'alternance de phase d'exploration où le but, ça va être d'activer des leviers, de trouver des clés, d'utiliser certains objets à un tel moment et à un tel endroit. Des phases où on va chercher les trésors bonus qui vont alterner avec des phases de Doom-like où là, il va falloir tirer, bastonner. Le tir se fait très simplement, elle a une visée automatique. Donc, on lui fait sortir les flingues et ensuite, on tire avec. Donc, elle vise... seule, hein, Ellie.
Oui, alors il faut que les ennemis soient dans le champ de vision, c'est-à-dire pas dans le dos, quoi.
Tout à fait. Donc, très souvent, alors, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il va falloir... difficile, on prend vite l'habitude. C'est pas je suis statique et je tire. Il faut profiter des bons qu'elle peut faire, des nouveaux apports de ce qu'elle peut faire pour éviter certains ennemis. Parce qu'on va se trouver donc dans des fins fonds un peu perdus et on se retrouve face à des ennemis un peu inhabituels, des tyrannosaures, le yéti.
Le tigre.
Donc, Lara Croft toute petite face à un tyrannosaure, faut pas qu'elle reste sur place parce que sinon elle se fait bouffer tout de suite quoi. D'accord. Donc il faut sauter, bondir, faire des roulades tout en tirant quoi.
Ouais, donc en gros tu nous dis qu'elle fait comme dans les films d'action quoi, elle court en tirant dans tous les sens et ça fonctionne.
Voilà. Bah ouais, puis elle est illimitée en recharge donc elle s'en fout.
Elle recharge parfois.
Je crois pas.
La munition infinie.
Bah, en fait, avec l'arme de base, elle a les munitions infinies, pas avec les autres armes.
Ouais, voilà. Ok.
Avec les deux petits flingues.
Donc, ce scénario nous permet vraiment de faire un vrai chemin à travers des pays, de découvrir des pays et des lieux du coup différents qui sont vraiment riches. On va avoir le droit à un passage en scooter avec une. Non, en scooter, je dis n'importe quoi. En moto. C'est la moto? Si, c'est une moto, un scooter des neiges peut-être.
Des neiges.
Où il faut tracer quoi, une espèce de course poursuite. Et puis à Venise, on va avoir le droit de conduire une espèce de hors bord. Alors je sais pas calé en bateau, mais il va falloir dans les fonds de Venise qui sont inondés. Grâce à ce hors bord, il va falloir on active un levier, on saute dans le hors bord, on fait le chemin le meilleur possible pour arriver avant que la grille se referme. Ça c'est une sacrée prise de tête. Hein. Moi j'ai vraiment eu du mal. Donc c'est super, on a hors bord, on est content, mais alors à manier, chaud quoi.
Ouais, okay. Ça va quand même assez vite, c'est vrai que c'est pas pratique. Moi, je me rappelle de m'être viandé pas mal de fois dans cette phase de jeu quoi.
Ouais, donc c'est intéressant de l'avoir ajouté. Après, c'est, ça restait encore à perfectionner.
J'ai une question blague.
Ouais,
est-ce
vas-y.
Que, est-ce que c'est le même hors-bord que dans Caraïbes Offshore?
Franchement, non, je crois pas, non. Il est pré-designé façon Venise quand même, hein. On reste quand même okay. dans le Venise. Hein. Et puis, la dernière chose que j'adore dans les Tomb Raider et que j'ai particulièrement aimé dans le Tomb Raider 2, parce que c'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment bien travaillé et d'une importance. Je vais m'exprimer mieux parce que sinon, j'y arriverai pas. C'est le côté découverte du manoir et de la vie de Lara Croft. Puisque dans le 2, c'est presque un monde à part entière. Lara Croft nous accueille très poliment chez elle, en nous souhaitant la bienvenue dans ce second opus de ses aventures. C'est elle-même qui le dit, hein. Bienvenue dans mon second opus de mes aventures. Elle nous accueille chez elle.
Elle se la pète un peu, ouais.
Surtout que c'est grand chez elle.
C'est super grand. Et elle nous explique... qu'elle a créé un parcours chez elle pour ne pas se rouiller. Alors elle, c'est pour ne pas se rouiller, mais nous, évidemment, ça nous permet d'apprendre tous les nouveaux sauts, puisque tout ce parcours, il est fait pour nous imposer ces nouveaux sauts. On va avoir des fils à grimper.
C'est le didacticiel.
Voilà, c'est le didacticiel, mais sans qu'on s'en rende compte véritablement. On va avoir des passages nagés, où on va avoir des passages où on peut tester le saut de l'ange pour plonger dans l'eau, et on va avoir des caisses plus ou moins hautes et plus ou moins écartées pour pouvoir se faire justement à l'ajustage des bonds et des sauts dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas toujours évident et facile à faire. Donc vraiment, le parcours est bien pensé et en plus il est chronométré. Donc petit challenge en plus. À la fin, en plus, elle te le dit. En plus, si tu bats ton corps, elle te dit ouais, j'ai battu mon corps,
mon score. Mais tu t'entends, j'ai battu mon corps.
Non, je m'entends pas. Je parle moi. J'ai battu mon score et donc elle t'incite un petit peu à refaire ce parcours pour essayer de battre ce temps.
Mais
et
si puis, tu bats, tu gagnes quelque chose?
Non. Non, non, c'est juste même toi pour ton challenge.
Même pas sa petite garde-robe.
Et puis ce qui est marrant, c'est que tout de suite tu vois un nouveau personnage, c'est le valet, un petit vieux, le majordome qui te suit. C'est vraiment un petit vieux. Il te suit tout le temps à son rythme, hein, mais avec son petit plateau, avec sa petite tasse de thé. Et il est vraiment très vieux, il pète. L'anecdote, je te jure, il pète.
Il n'y a pas que les vieux qui pètent.
Il y a des moments, tu l'entends péter.
C'est une émission 18 plus ce soir.
Voilà, et donc l'autre chose après le parcours que tu peux faire, c'est visiter ton manoir. Et dans ce manoir, tu peux aussi activer des leviers, donc par exemple, ou des boutons. Donc tu peux te mettre de la musique dans la salle de musique. Et tu peux, alors il y a pour l'anecdote, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, tu peux ouvrir la salle froide, la chambre froide. Ouais. Et il y en a beaucoup. Je pensais pas que j'étais la seule à avoir essayé de faire ça. Et en fait, je suis allée sur le net. Et on essaye tous d'enfermer le petit vieux dans la chambre.
Ouais, ça j'ai essayé aussi. Ouais.
Et ça marche.
Mais à la fin du jeu, tu peux t'en servir aussi.
Et il crève alors le petit vieux?
Non, il crève pas. Il crève.
Oh, il est mortel.
Et je me demande s'il revient pas au bout d'un certain temps, s'il arrive pas à se libérer tout seul.
Je crois pas.
Mais
j'ai une question.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si tu tires avec les pistolets sur le petit vieux?
T'as pas les pistolets dans cette phase de découverte. Tu n'as pas tes armes. Donc c'est vraiment juste de l'entraînement et de la découverte du manoir. Donc tu découvres les pièces du manoir, la cuisine, la chambre froide, etc. Et bon, c'est là qu'on voit que les graphismes, ils ont évolué, mais qu'ils sont pas encore au summum de leur évolution. C'est que le manoir, il est très très beau, mais par contre tout est trop grand. L'évier est gigantesque, limite tu pourrais t'en faire une baignoire. D'ailleurs, tu peux sauter dans l'évier sans souci. Petit souci qui va.
Nager.
Ouais, voilà. Mais il y a aussi des phases où tu peux nager, hein. Mais dans l'évier, tu pourrais. Et les meubles sont un peu disproportionnés du coup par rapport à Lara, et ça c'est un petit peu dommage. C'est pareil, il y a quelque chose qui va rester dans les suivants, c'est que Lara, elle s'assoit pas sur son lit, elle préfère courir dessus. Enfin, tu as des petites choses comme ça.
Pas une vie facile, hein.
T'aurais préféré l'allonger.
Ouais, j'aurais préféré qu'il y ait déjà, tu vois, des petites interactions possibles. Si déjà on pouvait déjà actionner des boutons pour allumer de la musique, ouvrir des portes, des choses comme ça.
Après, c'est les
Sims. Je pense qu'on aurait pu soigner un petit peu, ne serait-ce que la dimension des meubles, quoi. Parce que du coup, le manoir, ok, il est géant, il n'y a pas de souci, mais que du coup, la table, elle lui arrive aux épaules, tu vois, c'est un peu ridicule, quoi.
À moins qu'elle soit vraiment très petite.
Ouais, on va dire ça comme ça, oui. On va mettre ça, ça va être l'excuse. Et du coup, enfin, en tout cas, moi, je veux souligner que que ce monde, il est véritablement intéressant et que mine de rien, on y passe finalement un temps fou alors qu'il fait pas partie de l'aventure. Il va pas nous aider à débloquer des choses dans l'aventure ou quoi que ce soit. C'est vraiment un monde bonus dans lequel, en général, on prend vraiment plaisir à découvrir, à explorer. Et ce monde bonus, il va réapparaître dans les suivants. Et il va être de plus en plus enrichi, puisque par exemple, alors je sais plus dans lequel c'est, excusez-moi de mon inculture, mais comme j'en ai fait plusieurs, je sais plus exactement à partir duquel c'est possible. Mais par exemple, après, quand on va débloquer, quand on va trouver des secrets dans l'aventure, ça va nous débloquer différentes tenues, et ces tenues, on va les retrouver dans la garde-robe, dans la chambre de Lara Croft. Tu vois, donc il va y avoir une interaction entre ton aventure et ce monde un peu bonus. Il n'y a pas encore dans le 2.
Par rapport à ton souvenir de jeu personnel, ouais, est-ce que tu arrives à quantifier la proportion de temps que tu as passé dans le manoir et dans le reste du jeu en dehors, pour voir si c'est lourd ou pas?
Je pense que j'ai passé autant de temps que dans un monde normal.
Ouais, 50-50 quoi, c'est-à-dire ouais, deux heures dans le manoir facile.
Et dans, les et dans les suivants, encore plus.
Oui, parce qu'elle s'est perdue dans le manoir.
Ouais, non, parce que dans les suivants, elle a encore plus de capacités physiques, elle peut vraiment grimper sur tout n'importe quoi, et les concepteurs du jeu en ont profité pour faire différents passages, et du coup, dans le monde bonus, tu peux débloquer des bonus et trouver des objets, des trésors, des vestiges et des choses comme ça.
Ça devient pas trop lourd d'avoir un manoir si long à faire au début juste pour t'apprendre à jouer les nouveaux mouvements si t'as déjà fait ceux d'avant?
T'es pas obligé de le faire au début.
Tu peux le zapper en fait.
Après, tu peux même dans celui-là, déjà, tu peux y rentrer quand tu veux. Mm-hmm. Et donc, moi, je conseille évidemment dans celui-là, de quand on n'est pas trop adepte des Tomb Raider, de commencer par l'entraînement. Mais après, quand tu connais bien les Tomb Raider, t'es pas obligé de commencer par ça.
D'accord.
Donc tu peux très bien le commencer, l'enregistrer, revenir plus tard, le finir en fonction de comment t'as réussi dans les niveaux à bien t'améliorer, à prendre certains mouvements. Tu dis, ah bah ouais, peut-être que ce mouvement-là, finalement, je peux le faire aussi dans mon monde bonus. Donc tu reviens après dans les suivants.
C'est bien que ce soit optionnel, parce que maintenant il y a une tendance quand même dans le jeu vidéo à imposer aux joueurs en fait la phase d'apprentissage. Donc
c'est pénible.
Souvent c'est pénible parce qu'on se retrouve à être obligé de passer par là. Alors vous avez un niveau, généralement le premier, qui est un peu tout nul parce que voilà, ils vous disent faites ci, faites ça, utilisez cette action à tel moment précis. Alors que par exemple, souvent quand c'est des suites, bon c'est bon, vous avez déjà fait le premier, il y a trois nouveaux mouvements, vous pouvez dire soit là vous lisez la notice, soit vous les apprenez tout seul quoi. Donc c'est vrai que c'est bien qu'ils aient fait ça de manière optionnelle dans ce jeu quoi.
Ouais. Tout ça rend le jeu vraiment agréable à jouer, quoi.
Ok.
Voilà.
Ben, c'est pas mal.
C'est pas mal, hein ?
Ouais, c'est pas mal.
J'ai encore une petite anecdote, mais là, ça suffira pas.
Et tu la gardes pour,
juste la garde
après.
Pour tout à l'heure.
En attendant, on va s'écouter le thème d'introduction, l'opening team, mais là, c'est de Tomb Raider 3, je crois, si je
oui,
dis pas de
ça.
Bêtises. Voilà,
c'est
donc
ça.
On change de jeu pour la peine, on va un peu plus loin. Et on verra la suite après dans le reload. Hein. À tout de suite, les amis.
M57 Radio,
It's and Move.
It's and Move.
Thank you.
Prestart.
Génération Prestart.
Vous êtes toujours avec nous dans Try Again, bientôt la fin, mais on est toujours là avec vous sur le chat, ici et partout.
Et quelle voix suave, Martin.
N'est-ce pas, ça fait plaisir. Et donc ce soir, on vous l'avait promis, des CG codes à gagner. Moi, sans plus attendre, je vais vous les donner parce que, en fait, Nelly, explique-nous ce CG code.
Ouais, c'est moi qui vais vous le donner. D'accord. Parce que moi, à la base, je voulais que le CG code, ce soit un truc classe puisqu'elle fait partie de la noblesse anglaise, je voulais que ce soit Lady. Mais évidemment, comme je suis en minorité dans le studio, le CG code cette semaine, c'est Boobs.
Voilà. B-O-O-B-S. Oui. On a voté.
Les hommes ont voté, ouais. Ce soir c'est B-O-O-B-S, ce sont les boobs qui l'emportent.
Les boobs de Lara qui l'emportent sur le gameplay, sur ses origines, c'est n'importe quoi.
Ah ouais, ça fait partie.
C'est parce que ce soir c'est une 18+, alors on se permet tout.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Alors moi je vais enchaîner avec les questions des auditeurs. Alors une question très répandue pour toi Nelly.
Oui.
Est-ce qu'il existe un code dans un des Tomb Raider qui permettrait de voir Lara Croft toute nue ?
Absolument pas. On arrête avec ces légendes urbaines. On ne doit pas sauter en faisant je ne sais pas quoi au-dessus de la fontaine pour qu'elle se mette à poil. Arrêtez les mecs, elle ne peut pas se mettre à poil. La seule chose qu'on a vu apparaître un peu sur le net, c'est les joueurs PC qui ont réussi à créer
ils
ont changé la texture pour faire croire que c'était la texture de la peau.
D'accord.
C'est tout, mais c'est pas intéressant, c'est inintéressant possible.
En venant d'annoncer ça, tu viens de perdre la moitié des joueurs potentiels de ce jeu. Quoi.
C'est pas grave, ils ont écouté toute l'émission, on s'en fout maintenant.
En plus, ils avaient déjà le CG code.
Attends, en plus, alors. Donc non.
Alors j'ai une question maintenant de Alex. Alors les scénarios des films Tomb Raider sont-ils issus des jeux ?
Alors les Tomb Raider, t'as les titres, hein, je crois, Ellie.
Oui, j'ai les titres, ouais.
Alors non, ils sont pas issus des jeux. Le premier Tomb Raider mettait en scène comme objet. Alors il respecte toujours l'idée de l'objet magique, vestige magique avec un pouvoir. Dans le premier, c'était une horloge dont Lara Croft avait hérité et a priori qui faisait partie d'un ensemble d'objets à retrouver pour pouvoir diriger un peu l'espace-temps. Donc outil très dangereux, donc elle sauve encore une fois l'humanité. Et le deuxième, il me semble qu'il était appelé le berceau de l'humanité. Là c'était la boîte de Pandore
de
qui était mise en scène, donc voilà quoi. Donc non, et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que les Tomb Raider, ils ont vraiment un scénario quoi. Je veux dire, en enrichissant un peu ce scénario, avec toute l'enquête qu'il y a pour retrouver l'objet, les objets qui la font avancer, tous les voyages qu'elle fait parce qu'ils ont gardé l'esprit de comment elle s'appelle l'actrice, Angelina Jolie,
ouais.
Qui vint d'un pays à l'autre pour avoir des indices pour retrouver ces objets. Donc ils ont gardé quand même une base et du coup je sais pas pourquoi ils ont fait des nouveaux scénarios. Ouais. Alors, qu'il y en avait.
Est-ce que, moi je pense peut-être que ça vient du fait qu'il y ait des licences de jeux vidéo qui soient passées en cinéma avant et qui ont été totalement massacrées, genre Street Fighter, Mario Bros, ça existe au cinéma.
Mais tu trouves que c'est meilleur là ce qu'ils nous ont fait ?
Bah moi franchement je l'ai bien rigolé durant Tomb Raider.
Oui bah ça, c'est pas regarder. Le but de rigoler devant Tomb Raider.
Ah, mais en même temps j'ai pas joué au jeu donc je vais pas avoir un avis qui va être porté dessus. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'en voulant porter des jeux existants en film, ils ont fait parfois des navets. Et peut-être qu'ils ont voulu se dire ben voilà, on va garder l'esprit, on va faire quelque chose de similaire mais avec une nouvelle histoire pour donner envie aux joueurs de pas redécouvrir quelque chose qu'ils ont déjà fait mais quelque chose de nouveau.
Ouais. Mais moi je trouve
comme
que
fait, avec Final Fantasy, on a déjà eu la même discussion sur le film.
Oui,
Final
tout
Fantasy,
à fait.
Hein.
La légende de Xehanne, elle est vraiment, c'est une vraiment belle légende. Lara Croft va vraiment enquêter pour ouvrir cette porte de tombeau scellé. Elle va devoir enquêter et suivre ce Bartoli qui est un mafieux. Donc je veux dire, tous les éléments sont là pour pouvoir faire un bon film. Il y a un méchant, il y a une quête, il y a tout un cheminement pour y arriver. Il y a de la baston puisqu'on est contre des mafieux.
Et puis on la voit nue dans le film, enfin
partiellement. Donc oui, non, mais alors ça c'est pareil, c'est un prétexte quoi.
Sans code.
Et sans code, voilà. Après les gens ils croient vraiment qu'il y a un code pour la
foutre. Et d'ailleurs ils ont effacé les tatouages parce que Angelina Jolie en a pas mal
à la
base.
Elle en a pas mal. Ouais.
Et là ça passe mieux à l'écran.
Ah bah oui parce que.
Anecdote.
À mon avis Lara Croft, noblesse, tout ça, à mon avis. Si elle a un tatouage, il est bien caché. Franchement.
Tu nous le montreras.
Voilà, alors moi je vais vous parler un petit peu des différentes versions des Tomb Raider qui sont sorties. Donc il y a la toute première qui a vraiment lancé la mode en 1996, donc Tomb Raider tout simplement, qui était sortie à peu près en même temps que Resident Evil, Crash Bandicoot. C'est vraiment ce qui a lancé la console, la PlayStation. Hein.
Mais il n'était pas porté que sur ça, il était sur tout plein de choses.
Hein. Ouais.
Sur Saturn, sur PC.
Sur PC aussi.
Oui, PC,
oui. Ouais, ils ont exploité tous les supports à l'époque. Hein,
ouais, le plus connu étant quand même le PlayStation, non.
Je sais pas
ou
si
le PC.
PC aussi pas mal.
Je suis pas sûr que ce soit le plus connu, mais peut-être que le PlayStation c'est ça qui était le plus commercialisé ou plus vendu entre les trois.
Je sais pas, parce que la version PC, je pense, ça a fait pas mal de.
Ouais, c'est vrai.
Il
faudrait chercher les chiffres. C'est que mon avis.
On disait que le code c'était que sur PC, mais en fait.
Oui, ça a peut-être attiré des acheteurs, ça.
Bah voilà, c'est
le
ça.
Code.
Ouais. Donc il y a le second volet, la dague d'Oxiane. Donc,
5 millions
d'or.
De ventes hein, quand même, ouais. Le deuxième volet.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Tu as déjà des chiffres, bravo.
Oui.
5 millions, ça me paraît énorme. Quoi.
Fin 97.
C'est ce que j'ai trouvé, hein. J'étais pas là pour les compter, mais c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Comme,
Non, mais c'est bien, je veux dire, effectivement, ça a été un succès commercial énorme, hein. Je veux dire, déjà de le premier, je pense. Mais ouais, c'est des beaux chiffres. Quoi.
Ensuite, il y a eu les aventures de Lara Croft, donc ça c'est le troisième volet, le dernier artefact. Donc ils sortent à peu près un épisode tous les ans, en général c'est vers la fin de l'année, un petit peu avant Noël, donc là c'était fin 98. Ensuite, ils ont enchaîné avec la révélation finale, fin 99, donc qui est sorti sur PlayStation, sur Dreamcast, sur PC. D'ailleurs, dans celui-là, où on voit un petit peu les débuts de Lara Croft avec Werner von Krooy. C'est un archéologue allemand qui est assez célèbre et qui l'a un petit peu formé, qui l'a emmené en Égypte par des choses. Donc,
son maître.
Voilà, voilà. Et qui après se fait posséder par
son maître
de Seth. Bon.
Mais ne dis pas tout.
Oh. Un petit détail.
Il aime bien spoiler.
Ouais, c'est fou ça.
Non, j'en dis pas beaucoup. Ensuite, fin 2000, on a eu quoi sur les traces de Lara Croft?
J'ai pas joué.
Non,
pas fait.
Celui-là non plus, j'ai pas fait.
Sur quelle plateforme?
Celui-là, il est sorti.
Le temps qu'il retrouve sa note, non? Non, il l'a pas.
Sorti sur quoi? C'était pas sur PlayStation, donc c'était la suite.
Sûr qu'il est pas sur PlayStation. Il me semble qu'il était.
Non, c'est pas la révélation finale.
PlayStation 2, il est sorti.
Continue son ménage, Lionel. Il est en train de nettoyer ses PC, lui d'écouter, et puis après.
On a dit PlayStation 2 suivant.
La malédiction de l'épée qui est sortie en 2001. Celui-là, c'est sur Game Boy Color. Alors, il faut savoir que les premiers Tomb Raider ont été faits par Core Design, les six premiers. Ensuite, c'est Crystal Dynamics qui les a sortis.
Voilà. Tout à fait.
Bon, c'est intéressant de le savoir.
Ok.
Ouais, ça peut peut-être effectivement, des fois, justifier des différences de gameplay et de qualité aussi qu'il peut y avoir d'un épisode à l'autre. Parce que des fois, les développeurs font pas forcément tous le même travail et on met même.
Là, sur Game Boy Color, c'est un petit peu différent, forcément, là, c'est moins puissant. Et c'est Eidos Interactive qui l'a sorti cette fois-ci. Ensuite, fin 2002, on a eu le droit à Tomb Raider The Prophecy. Donc, ça, c'est de la Game Boy Advance. De nouveau par Core Design.
Ensuite, c'est le seul que je dois avoir chez moi.
Ah, sur console Nintendo. Hein. Alors, L'Ange des Ténèbres, la saga Crystal Dynamics qui l'a sorti.
Très critiqué.
Ouais.
C'est parce le qu'il légende, a été. Ellie disait qu'il sortait à peu près au rythme d'une fois par an.
Ouais.
Et celui-là était retardé. Enfin, il prenait du temps à être fait. Et les fans étaient derrière pour réclamer leur 1 par an. Et du coup, il a été sorti.
Précipitamment.
Et il est quasi. Enfin, il est. Tu sens qu'il est pas totalement achevé comme il l'aurait voulu.
Il est buggé, il est pas assez beau, ou des trucs, il est pas précis.
Donc,
je pose des questions. Donc c'est ça,
pas
un peu tout ça.
C'est un peu tout ça mélangé. Il est pas. C'est pas une bouse, hein.
Il a moins d'âme.
Mais du coup, comparé aux autres, il a moins d'âme. Le scénario est moins poussé. Ils l'ont sorti inachevé.
D'accord.
À la va-vite.
Et comme à l'époque, il n'y avait pas de patch téléchargeable comme aujourd'hui pour corriger les bugs qui ne corrigent pas pendant le développement.
Merci, au revoir.
Voilà, quoi. Ouais,
avec cet épisode donc un petit peu moins réussi que les autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va retourner au premier épisode, on va sortir un remake. Donc il est sorti pour les 10 ans de Lara Croft, donc en 2007, et c'est Tomb Raider Anniversary.
J'ai adoré.
Oui, bon. Enfin, ça, c'est vrai que les rééditions, moi, je suis partagé parce que dans un sens, c'est bien d'avoir un jeu qui est réédité avec des graphismes améliorés et tout ce qu'on veut. D'un autre côté, bon, c'est un peu, on se casse pas la tête pour le level design et pour l'histoire, on reprend les mêmes, on recommence.
D'un autre côté, il est vraiment amélioré au point de vue graphique. Il a beaucoup moins ce qu'on disait tout à l'heure pour passer certains passages qui étaient vraiment chiants, où il fallait faire les petits pas, les machins. Il a plus tout ça et du coup, c'est un réel plaisir. Après, il a été critiqué des fois sur la difficulté.
Est-ce qu'ils ont refait cette énigme? Parce que je pense à d'autres rééditions du genre, par exemple le premier Resident Evil, il a été réédité sur GameCube, ils l'ont retravaillé graphiquement, ils avaient changé quelques énigmes. Est-ce que là aussi ils ont fait ça comme ils ont retravaillé le gameplay?
Je crois pas.
Ils ont tous laissé
les deux. Non, j'ai pas comparé les deux.
D'accord, t'avais plus les deux en tête quoi.
Non.
Ok, bon, je pour savoir.
En tout cas, elle a un visage un petit peu différent, elle est belle.
Bah oui, du coup, elle est plus attrayante à regarder. Hein, mais même pour une fille qui joue, elle est magnifique.
Je sais pas s'ils sont inspirés d'une personne pour refaire le visage ou s'ils ont vraiment dessiné tous les traits.
La légende voudrait, mais je n'ai trouvé ça que sur un seul site et je ne sais pas si c'est vrai, que Néné Thierry, la chanteuse, et inspiré le caractère, et que Tank Girl ait inspiré le personnage.
Bon.
Mais je ne sais pas si c'est vrai.
Ouais. Donc ça,
Tank Girl, je valide, moi. Je valide Tank Girl.
Ouais.
Mais pour moi.
Le look punk.
Non, sans le punk, mais sur le côté physique et vestimentaire. Mais bon.
Alors,
c'est mon avis.
On va continuer. Il y a Tomb Raider Underworld qui est sorti fin 2008 sur Nintendo DS. Alors celui-là, je me souviens que mon petit frère, une fois, il me l'a rapporté. Là, je l'ai trouvé dans le bus, donc sans la boîte, juste comme ça. C'était sympa.
Deux anecdotes perso dans l'émission, mais c'est pas possible. T'es on fire aujourd'hui.
Ah, il en faut. Hein.
Alors ensuite.
Un petit dernier.
En 2010, il y a Lara Croft and the Garden of the Light. Donc sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC.
Bon, ouais, ça voilà. C'est vraiment tout frais.
Et pour finir, on peut peut-être finir par les mensurations officielles de Lara Croft.
Alors, les mensurations, ça serait 85, 60, 90.
Ce okay. Serait les mensurations officielles. Et je crois qu'ils se basent sur ça pour choisir les représentantes.
Et c'est du bonnet
aussi.
Quoi
potentiel.
Du alors, bonnet ils ont pas, j'ai pas les
ah,
bonnets.
Ah, on n'a pas le bonnet.
ça dépend des épisodes, on l'a dit tout
et
à
ben,
l'heure.
Et qu'elle garde ses bonnets.
C'est aidé, quoi.
Qu'elle garde ses bonnets. Et en attendant, moi, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine, de nouveau, dans Génération Prestar. Toujours à l'écoute de M57 avec à nouveau DCG Code à gagner, avec encore plus de choses sur le podcast que je vous invite à aller voir sur notre forum forumtryagain.com, où enfin en exclusivité on a un podcast et il sera expliqué là et uniquement là-bas comment ça fonctionne. Le CG Code, il a été donné.
Oups.
B-O-O-B-S.
Et en attendant, eh ben, au revoir les gens. Jouez bien la semaine prochaine.
Bisous Girl Power.
La semaine prochaine sera Donkey Kong Country sur Super Nintendo le premier. Et ciao ciao tout le monde.
Ciao.
Bonne fin de soirée à tous.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Oh,
Génération Prestart.
Génération Prestart.
En partenariat avec culturegames.com. Game over.